Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdi Wa pour l'interview émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Gilbert David. Bonjour.
Bonjour.
Gilbert David, vous êtes membre et président aussi de la Ligue des protections des oiseaux et d'autres animaux depuis quelques années aussi.
J'ai été pendant une trentaine d'années président de la LPO, enfin LPO et avant CORA, c'est-à-dire Centre ornithologique Rhône-Alpes, et puis maintenant c'est LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Mais depuis 2 ans, je ne suis que vice-président. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui est très compétent et qui a pu me remplacer. Voilà, donc je suis vice-président et je m'intéresse surtout à toute la région du Diwa Sud-Vercors. On a formé un groupe local de la LPO pour cette région-là.
Alors la LPO, c'est une, surtout la présidence, c'est une fonction de tous les instants.
Alors c'est une fonction bénévole, hein, parce que évidemment la présidence d'une association, c'est que du bénévolat. Mais nous avons aussi des salariés. Alors, maintenant, on a une LPO Drôme Ardèche, on s'est rassemblé avec nos amis ardéchois. Et sur ces deux départements, nous avons une quinzaine de salariés. Donc ça devient une association assez importante. On a pratiquement 1000 adhérents. Et, je précise que les adhérents sont que des bénévoles. Et c'est pas obligatoire d'adhérer à la LPO comme... d'autres associations qui, pour par exemple la chasse, pour chasser, on est obligé d'adhérer à la même fédération. Voilà. Donc là, c'est vraiment du bénévolat.
Des bénévoles donc innombrables sur le territoire du Diwa notamment pour aborder, et puis on va parler aussi du tétralyre qui vit de grosses difficultés actuellement et peut-être d'autres oiseaux et d'annonces aussi pour des comptages à venir bientôt, prochainement.
Oui, alors donc moi je m'intéresse surtout donc depuis 46 ans. Oui, ça fait beaucoup, je sais. sur cette région du Diwa et Sud-Vercors, j'organise des inventaires, des comptages, des dénombrements, des observations sur toute cette région-là. Je ne suis pas tout seul, hein, heureusement. J'ai fait un groupe... qui ressemble à peu près... dans mon groupe, il y a 150 personnes qui adhèrent à nos idées, à nos informations. Et voilà, donc pour l'instant, on s'intéresse beaucoup, par exemple, à la loutre, au castor, mais à toute la faune sauvage du Diwa Sud-Vercors. Voilà, donc c'est un gros boulot, si vous voulez, hein, mais c'est passionnant parce que on découvre des choses, des fois agréablement, des fois moins, des fois on est attristé par des pertes de biodiversité, mais en général dans le Diwa, on est assez gâté quand même, et donc c'est toujours intéressant de suivre ces populations-là, puis d'observer surtout. Je ne vais pas trop parler trop de chiffres parce que ça embête pas mal de monde, mais simplement avoir le plaisir d'observer une faune sauvage et libre, c'est vraiment très, très passionnant.
Vous dites donc que sur le territoire du Diwa et Sud-Vercors, on peut peut-être se considérer assez heureux par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'il y a malgré tout quelques bémols ?
Oui, alors ce qui est assez contradictoire, si vous voulez, c'est que la faune pratiquement sauvage qui était en grosse difficulté auparavant, comme les rapaces, comme les espèces un peu emblématiques qui étaient considérées comme rares, sont soit réintroduites, soit se portent mieux. Par contre, ce qui est problématique maintenant, c'est que la faune commune devient de moins en moins commune. Voilà, donc c'est un peu contradictoire, mais c'est un peu le constat qu'on fait. Par exemple, les hirondelles se portent moins bien. On voit qu'il y a 30% d'effectifs en moins par rapport à il y a une dizaine d'années. Donc c'est assez important. Il y a certaines chauves-souris qui diminuent. Même le chamois qui avait augmenté depuis les plans de chasse commence à rediminuer maintenant. Même les chasseurs s'en aperçoivent parce qu'ils ont même baissé leurs plans de chasse parce qu'ils n'arrivaient même plus à les faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant intéressant et malheureux pour la faune commune. Par exemple, les moineaux diminuent aussi, alors qu'un moineau, pour beaucoup de monde, c'est une espèce très courante. Et ben, même chez cette espèce-là, les effectifs diminuent, quoi.
Cela surtout pour le Diwa, le Vercors, le plateau, c'est une autre faune qui existe. Et est-ce que vous y trouvez aussi les mêmes inquiétudes ?
Oui, alors donc sur le sud Vercors, donc c'est ce que moi je m'intéresse surtout aux glandas. Il y a des problèmes peut-être, enfin sûrement, avec le lagopède qui est en voie de disparition aussi, et surtout le tétralyre qui est mal en point, qui se maintient très difficilement, qui est une espèce quand même qui se porte pas très bien, quoi, en fait. Voilà. Donc, ce sont des espèces un peu emblématiques aussi. Et après, il y a la bartavelle qui se maintient, qui peut-être augmente un peu parce qu'avec le réchauffement, c'est une espèce qui supporte mieux ces changements climatiques. Mais bon, il y a d'autres espèces encore comme le merle à plastron qu'il y a des effectifs qui baissent assez dangereusement pour nous, hein, parce que la reproduction est très mauvaise depuis quelques années.
On pourrait peut-être, avant de continuer, déterminer ce qu'est la famille des tétraonidés pour les auditeurs et ce que cela comprend comme espèce, et ensuite peut-être aussi donner leur rôle par rapport à la chaîne alimentaire de l'éco ou de la biodiversité.
Voilà, donc dans cette famille des tétraonidés, on a trois espèces principales. C'est la jolie note des bois, qui elle est forestière, qui vit dans les forêts d'altitude, comme par exemple Romillier. Il y a ensuite le tétralyre, qui lui est une espèce entre la limite de la forêt et les hauts plateaux, donc sur les pâturages. Il lui faut un peu des arbres et un peu des terrains plus libres, enfin plus sans des pâturages pour élever les jeunes. Et puis le lagopède alpin, qui lui est cantonné vraiment sur les crêtes, et qui lui subit fortement le réchauffement climatique, parce que comme c'est le plus haut en altitude, il peut pas se réfugier plus haut, quoi. Donc c'est un problème pour lui. On le retrouve sur le Grand Véman ou sur les crêtes un peu de la Montagnette par exemple, mais en très très faible effectif.
Vous parliez de la copède qui souffrait de chaleur, en quelque sorte. Ou de quoi souffre-t-il cet oiseau qui se situe sur les crêtes du Vercors?
Oui, le problème pour lui, c'est aussi le manque de neige, parce qu'il devient blanc en hiver, donc il change de plumage. Hein. Et donc, avec la neige, le manteau neigeux qui est beaucoup moindre, et des fois qui est pas très couvrant, il est beaucoup plus facile à être repéré. Et c'est son problème de mimétisme qui joue plus son rôle, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un problème aussi pour avec les prédateurs, avec les pâturages aussi, mais c'est un peu moins que le tétralyre. Voilà, et puis les randonneurs qui peuvent le déranger aussi. Voilà. Bon.
Alors, j'avais posé la question, je ne sais pas si vous y avez répondu. Et qu'est-ce qui détermine la famille des tétraonidés en termes d'ornithologie?
Alors, c'est les tétraonidés, enfin, il faut savoir que l'espèce humaine aime bien faire mettre des petites boîtes dans des grandes boîtes et tout ça. Donc, il a divisé un peu toute la faune en boîtes, hein, si vous voulez. Donc, il y a ce qu'on appelle le règne animal, qui est en haut qui rassemble à peu près tous les animaux. Après, il y a des embranchements. Alors, pour nous, c'est les vertébrés. Donc, tous ceux qui ont une colonne vertébrale, et puis on appelle ça donc des vertébrés. Donc, ça, c'est le règne, la classe en dessous. Après, il y a la classe. Donc, là, c'est les oiseaux, par exemple, pour les tétras. Après, l'ordre, donc là, c'est les galliformes, les galliformes de montagne pour le tétra. Ensuite, là, c'est la famille des tétraonidés. Ensuite, c'est les genres, tétrao pour le tétralyre. Et l'espèce, donc on arrive à l'espèce, c'est tétrao tétrix, qui est le tétralyre. Donc ça, c'est pour les lire. Donc tout ce qui est dans cette famille-là, il y a les tétraonidés qui rassemblent donc ces espèces-là, quoi. Voilà, c'est juste une classification un peu arbitraire, si on veut, parce que la nature est beaucoup plus complexe.
Alors, autour du tétralyre, il y a une opération très prochainement, hein, que vous annoncez aussi par rapport à sa disparition. Est-ce que vous pourriez préciser un peu les problèmes et comment y remédier pour essayer de maintenir cette espèce?
Alors, le tétral, c'est vrai qu'il y a des changements climatiques, il subit de plein fouet. C'est ce problème-là. Il a aussi d'autres problèmes. Hein. C'est aussi le surpâturage dans certains coins, le tourisme, le tourisme hivernal, le tourisme d'été. Il a pas mal de problèmes d'adaptation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce qui était à l'écotone de forestière, donc entre la forêt et puis les prairies subalpines, hein, parce qu'on est dans ce coin-là. Et donc tout ça fait que le tétra arrive très mal à maintenir des effectifs viables dans cette région. Alors, à tout ça s'ajoute une chasse qui est très faible, vraiment, mais quand même qui rajoute en plus à tout ça. Et donc, nous, à l'LPO en tout cas, on aimerait quand même qu'on soit logique avec nous-mêmes, avec ce qui est décidé avant. c'est de ne plus chasser une espèce qui est en mauvais état de conservation. Ça, ça me paraît d'une évidence fondamentale. C'est pas normal, c'est pas logique qu'on puisse tuer une espèce qui est en train de disparaître ou qui est en mauvais état de conservation. Voilà, donc ça, c'est ce gros problème-là. Faut savoir que les mâles et les femelles, il faut qu'il y ait un sexe ratio équilibré. Ça veut dire qu'il y a autant de mâles que de femelles. Bon, là, on tire que des mâles, d'accord, mais c'est pas normal qu'on puisse les tirer, quoi.
Le tétralyre est un oiseau qui vit en couple ou qui procrée en couple et pour la vie, en quelque sorte, comme d'autres espèces, la pie, je crois.
Alors, pour le tétra, il a une façon de se reproduire assez particulière, mais qui peut être aussi pour d'autres espèces. Au printemps, donc fin avril jusqu'au mois de mai, les mâles se réunissent sur des places de champs qu'on appelle arènes et ils paradent. C'est très joli à voir. Et puis ils recoulent, ils chointent, enfin il a tout un cérémonial, si on peut dire. Et puis ces parades-là sont très importantes parce que les femelles qui sont autour vont s'accoupler avec celui qui aura les meilleurs gènes et donc qui paradera le mieux, quoi, si on peut dire. Voilà. Et donc c'est pendant ce mois de mai-là que les accouplements vont se faire. Puis après, l'élevage des jeunes se font dans des prairies. Alors il leur faut minimum aussi une vingtaine de centimètres, 20-30 centimètres d'herbe de hauteur pour que les jeunes puissent se cacher, parce qu'ils ne veulent pas au début, et qu'ils puissent se nourrir, parce qu'ils se nourrissent surtout d'insectes qu'ils trouvent dans la prairie. Et donc là, ils sont en concurrence directe avec les élevages. Hein. Or, les moutons ne sont pas très... Enfin, ça pose pas trop de problèmes. C'est surtout maintenant avec les patous et les chiens de berger qui peuvent tomber sur une couvée et puis la boulotter, quoi. Donc là, ça pose un problème. Mais il y a des zones de défense, c'est-à-dire que là où on connaît la reproduction des tétralyres, les bergers ne vont pas normalement dans ces zones-là. Donc on respecte un peu il y a une cohabitation qui peut se faire assez facilement, quoi. Sauf que des chiens, des fois, bon, ils vont un peu partout, hein. Voilà, ça pose un peu ce problème-là. Ensuite, les jeunes s'envolent et le premier hiver, il y a presque les trois quarts des jeunes qui meurent parce que c'est une mortalité naturelle. Voilà, donc c'est très difficile à juger une reproduction très de ces espèces, de cette espèce-là. Voilà, c'est son problème, c'est justement cette adaptation à tout ça, quoi.
Le tétralyre, pourquoi est-il encore chassé de nos jours? Est-ce qu'il est considéré pour son plumage ou son aspect culinaire?
Ça, je crois qu'il faut demander ça aux chasseurs, hein, parce que moi, je ne suis pas chasseur de tétralyre, ni d'autres choses d'ailleurs. Et c'est une espèce qui est vraiment... je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse la chasser. C'est un très bel oiseau, c'est vrai. Alors, empaillé sur une cheminée, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. J'arrive pas à comprendre. Voilà, ça, je... Faut pas me demander pourquoi on chasse le tétralyre, je sais pas, et ça me révolte.
Assez couramment, vous organisez des comptages, des séries de comptages sur des oiseaux ou des espèces déterminées. Comment ça se passe, d'ailleurs, pour une prise de contact? Ensuite, comment arrivez-vous à concilier les chiffres que vous recevez de multiples parts et d'en pouvoir faire une synthèse?
Voilà. Alors donc, pour ma part, en tout cas dans le Diois, mais ça se fait un peu partout en France, on fait pas mal de dénombrements, de comptages, de suivis. Pour cet hiver-là, donc on va faire, enfin j'organise un comptage chamois sur Glandas. C'est un comptage que j'organise depuis 1993. Oui, ça fait un petit bail. Voilà, donc, or, c'est pas toutes les années, parce qu'il y a des fois qu'il y a eu des problèmes de temps, de météo. L'année dernière, c'était plutôt le Covid, hein, évidemment. Donc, on n'a pas pu l'organiser. Mais chaque fois qu'on peut le faire, donc, on fait ce suivi-là. Je compte toujours au même endroit, avec toujours les mêmes postes, dans les mêmes conditions, pour connaître l'évolution des populations du chamois sur ce pourtour du Glandas, quoi, entre Archiane, pour à l'est, Châtillon, et puis jusqu'à Romeyé. Voilà, donc ça, c'est un comptage que j'organise depuis pas mal de temps. Hein, donc. Et c'est une des opérations qu'on fait. J'en fais d'autres pour ce qu'on appelle un stock suivi temporel des oiseaux communs. Donc ça, c'est au printemps, entre le mois d'avril et le mois de juin, où on fait deux passages pour les nicheurs précoces. Ça, c'est pour les oiseaux, hein, évidemment. Et pour les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Ça, c'est un des points qu'on fait toujours au même endroit aussi, donc avec un protocole qui est fait par le Muséum d'Histoire Naturelle, donc à Paris, et qui est en lien avec la LPO pour organiser ces comptages. Voilà, donc ça, c'est très normé. Hein. Et ensuite, moi, je fais aussi des dénombrements d'hirondelles sur la commune de Die. Je le fais depuis déjà une dizaine d'années à peu près. Je fais aussi ce qu'on appelle des chocs, c'est suivi hivernaux d'oiseaux communs. Ça se fait entre décembre et janvier. Et tout le long de l'année, on fait des observations, les oiseaux des jardins, les dénombrements d'amphibiens. Et puis aussi, depuis, il y a une personne de la LPO qui est sur Die, qui s'appelle François Chenet, qui s'occupe beaucoup des castors et de la loutre, et qui fait des observations et des suivis des preintes, enfin donc les crottes, hein, qu'on voit, ou des pièges photos. On arrive à avoir un peu l'évolution de la population des loutres. C'est un passionné, hein, François, donc c'est vraiment intéressant d'aller avec lui pour voir un peu comment il fait. Et c'est normalement tous les premiers lundis de chaque mois où il organise donc ses observations.
Tous ces chiffres, donc, vous les transmettez au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Vous en savez la destination que ce musée en fait?
Oui, tous les ans, il fait une reconstitution, enfin une restitution de ces comptages dans un document qui est libre d'accès d'ailleurs sur Internet. Et puis, par contre, la LPO a un suivi de sciences participatives qu'on appelait ça d'abord Faune Drôme, maintenant c'est Faune France. Je sais pas si on appelle ça un logiciel ou enfin, je connais rien.
Une application, on dirait.
Voilà, une application sur ce thème-là. Donc, il suffit de taper Faune Drôme sur Internet. Et puis, il y a une petite inscription, c'est tout à fait gratuit. Hein, et vous pouvez mettre vos observations. Évidemment, il y a des observateurs, des coordinateurs, des vérificateurs, parce qu'il y en a qui peuvent se tromper, d'autres qui... Voilà. Et donc, on peut demander s'il y a des problèmes sur une espèce à l'observateur de préciser un peu sur ce qu'il voit. Et ça marche tellement bien que on a des milliers de personnes qui vont sur notre site, qui mettent leurs observations. On en a, je crois, presque, enfin, je suis plus, on dépasse le million d'observations en Dromardèche, quoi. Ça, c'est intéressant. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à savoir justement l'évolution aussi des populations d'oiseaux ou de mammifères ou de reptiles amphibiens aussi d'ailleurs, parce que et puis aussi maintenant même des invertébrés comme les papillons et puis les libellules avec on est en association avec Saint-Pétroum qui est une association sur les insectes et particulièrement les libellules. Voilà, donc on est en relation avec plusieurs autres associations sur la saisie de données qui est assez intéressante enfin qui est primordiale d'ailleurs, pour savoir l'état de la faune sauvage dans notre pays.
Vous parliez donc de certains insectes, hein, comme la libellule notamment. Est-ce que vous avez aussi une recherche, ou est-ce que vous envisageriez, à savoir concernant les insectes pollinisateurs pour les espèces de flore naturelle, est-ce que il y a au niveau de la flore naturelle d'ailleurs, est-ce qu'il y a des problèmes aussi sur les plateaux sud-Vercors par exemple?
Alors, je vous remercie pour cette perle que vous me tendez la perche là, parce que justement, sur 10 et sur 36 autres communes, enfin du Vercors, on est en train de monter, c'est tout le début là, un ABC, c'est un atlas de la biodiversité communale. On a encore une réunion ce soir d'ailleurs, lundi soir là, et sur la mise en place de cet atlas-là, avec les bénévoles de tous ceux qui veulent bien jouer le jeu. Et là, cet atlas sera 4 pôles, qui est un sur justement les pollinisateurs, un autre sur les reptiles amphibiens, les milieux humides, un autre sur les chauves-souris, et puis un troisième sur les haies et les arbres remarquables. Voilà, ça c'est les 4 pôles qui ont été choisis pour l'Atlas de la biodiversité communale, cet ABC. Donc c'est sur 10, c'est donc des associations diverses, dont l'ALPEO, Sources et Racines, et puis en collaboration étroite avec la mairie de 10, évidemment, pour cette mise en place et ce suivi de cet atlas.
Puis à venir aussi fin novembre une excursion et du moins une étude sur les vautours.
Alors là, c'est un gros morceau, hein, parce que avec Vautours en Baronnie, une association spécifique sur les vautours dans les Baronnies, comme son nom l'indique, avec le parc naturel, la réserve des Hauts Plateaux et le parc naturel du Vercors, et puis la LPO. On organise un séminaire international à 10 sur les vautours et particulièrement aussi sur le gypaète barbu qui est en train d'être introduit, qui a failli se reproduire plusieurs reprises, mais ça n'a pas encore bien marché. Mais on ne désespère pas que l'année prochaine, ça sera la bonne. Voilà, donc ça se passe fin novembre. Et ça sera sur 4 jours, hein, du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ça sera donc un gros événement pour notre ville, où on va rassembler tous les meilleurs spécialistes vautours d'Europe occidentale. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour connaître un peu l'évolution de tous ces vautours, et puis d'avoir les dernières nouvelles de ces espèces. Voilà.
Ça sera l'occasion peut-être pour la LPO et d'autres personnes à venir présenter ces 4 journées. Donc, toute l'actualité, on peut la retrouver sur le site internet de la LPO.
Oui, tout à fait. Donc là, on a un site de la LPO. Et donc, vous tapez LPO, Drôme Ardèche, je pense. Je ne suis pas vraiment doué dans les ordinateurs, moi. Mais voilà, et donc vous avez toutes les informations. Chaque semaine, il y a une lettre info qui paraît. Donc là, vous avez toutes les dernières nouvelles, les actualités de notre LPO. Voilà.
Quelques précisions. Ensuite, en début d'émission, enfin en cours d'émission, vous parliez des hirondelles. On peut aussi associer les martinets. Toutes ces espèces qui vivent auprès des habitants et parfois même au sein des maisons tendent à se réduire beaucoup du fait déjà de certaines réfections d'immeubles qui en empêchent la possibilité. Et est-ce que avec les collectivités locales, vous envisagez aussi, ou est-ce qu'il y a comme ça, à l'ordre de discussion, des solutions à trouver pour maintenir un peu cette espèce?
Oui, alors donc, pour les hirondelles, il y a deux espèces principales d'hirondelles qui nichent en ville. C'est l'hirondelle des fenêtres, l'hirondelle des cheminées, qu'on appelle hirondelle rustique aussi. Et puis il y a le martinet noir. Qui n'est pas une hirondelle, mais qui est une espèce aussi qui est très inféodée aux maisons, et à dit aussi. Donc. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais des comptages depuis quelques années sur les nids. Donc je compte les nids qui sont présents, occupés, les nids vides, puis les nids détruits. Donc j'ai donc tout un suivi là-dessus. Et c'est vrai que le gros problème pour eux, c'est les destructions lors de ravalements de façades. Lorsque je peux, j'essaye de contacter les gens pour essayer d'éviter ça, ou de mettre des nids artificiels lorsqu'on ne peut pas. Alors ça ne s'est pas encore fait sur dit, ça s'est fait sur Saillant, où on a pu mettre des nids artificiels lors d'une réfection. Alors ce n'était pas des façades, c'était un changement d'électricité, de fil électrique, où il fallait enlever les fils et donc détruire les nids, parce que les nids étaient accrochés à ces fils. Donc là, on a posé sur toute une façade des nids artificiels, avec le gros problème, c'est les salissures, hein, ça, tout le monde me le dit. Donc on peut poser des plaques en dessous des nids pour pour empêcher que les salissures aillent au sol, elles tombent sur la planche, et puis ça marche très très bien, ça marchait à Craie aussi. Voilà, donc il y a des solutions. S'il y a un problème, il suffit de me contacter, on essaye de les résoudre. Voilà.
L'hirondelle fait le printemps, hein, comme on dit, oui, un pays sans printemps.
C'est vraiment dommage que ça, c'est vraiment, ces effectifs sont en baisse, et ce serait vraiment dommage qu'elles disparaissent. Hein. C'est vrai que pour l'instant, sur dit, on a de la chance, elles se maintiennent. Dans d'autres, partout ailleurs en France, les effectifs ont baissé au moins de 30 à 40% dans toute la France, hein, après justement nos relevés des stocks, là, des suivis temporels des oiseaux communs. Et c'est les effectifs qui ont été donnés par le Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, c'est vraiment un gros, gros problème, c'est la disparition de toutes ces espèces qui sont insectivores, et granivores d'ailleurs, parce que il y a de moins en moins d'insectes. Tout est lié dans la nature, hein. C'est pas, on parle pas d'une espèce comme ça qui est hors temps, hein. Donc c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut agir à tous les niveaux, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à la LPO.
Vous vouliez rajouter un petit mot aussi?
Voilà, je voulais simplement dire qu'on fait aussi des études sur l'aigle royal. Alors, il faut savoir que la Drôme la chance d'accueillir une quarantaine de couples d'aigles royaux. Et en Ardèche, ils commencent à s'installer. Il n'y en a que cinq couples qui vivent en Ardèche. Et malheureusement, on a repéré il y a quelques jours un aigle qui a été. On met des petits GPS sur les dos des aiglons. Et c'est l'aiglon qui a été équipé, on appelle ça un équipement avec un GPS et puis un petit panneau solaire sur un harnais qu'on met. On a l'habitude parce qu'il y a des personnes qui sont habilitées à faire ça, bien sûr, avec l'autorisation du muséum et tout ça. Et cet aiglon qui a été équipé au printemps, au mois de juin, en Ardèche, il a été plombé par un chasseur, donc il a été retrouvé mort avec pas mal de plomb de chasse dans le corps. Donc là, nous, la LPO va porter plainte parce que l'aigle royal, vraiment, surtout en Ardèche et même partout en France, hein, est une espèce protégée. Et donc c'est vraiment... Enfin, je ne peux pas dire d'autres mots, dégueulasse que de tirer sur ces rapaces-là, quoi. Enfin, sur tous les rapaces, d'ailleurs. Voilà, donc c'était un peu mon petit coup de gueule. Je trouve que c'est pas... Voilà, c'est important de le dire et puis de le faire savoir que on tire encore sur des aigles royaux, quoi.
Il y a un point, j'ai lu dans la presse, alors je ne sais plus si c'est dans le Dauphiné, ou dans d'autres sites qui parlent d'attaques de vautours sur du bétail, ça c'est fort improbable.
Bon. Les attaques sur de vautours régulièrement on en entend. À chaque fois, alors vautour à baronnie, on pourrait en parler mieux que moi. À chaque fois qu'on a refait des contre-visites, enfin, je ne sais pas quoi, on s'aperçoit que ce soit des bêtes mortes qui sont mortes naturellement, soit des bêtes qui sont entravées, qui sont encore vivantes, mais qui sont dans des fils. Il y avait un mouton qui était coincé dans des fils de fer barbelés, donc qui ont un comportement sub-mourant, quoi. Il faut savoir que les vautours fauves, mais tous les vautours, ne sont pas capables de tuer une bête en pleine forme. Ça physiologiquement, c'est pas possible. Il suffit de regarder un vautour. Il a un gros bec pour déchiqueter, mais pas pour tuer, quoi. Et donc là, c'est, à mon avis, et de l'avis de tous les spécialistes, les attaques de vautours sur des animaux bien portants, jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé. Et je ne vois pas comment ça pourrait être prouvé, d'ailleurs. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'une bête qui est gestante, qui a mis bas et qui est pour... ça s'est mal passé, en plein champ en plus, enfin bon, maintenant, qui n'a pas été secouru, c'est possible que des vautours puissent l'attaquer. Mais voilà, c'est des conditions très particulières, dans des conditions qui ne sont pas normales pour une bête. Voilà. Et donc les vautours sont vraiment des bienfaiteurs de la nature, parce qu'ils évitent, ce qu'on appelle des puits épineumologiques, j'y arriverai, voilà, parce que lorsqu'ils voient un cadavre, ils le mangent, et ils ont des sucs digestifs tellement puissants qu'aucun microbe, aucune bactérie ne peut survivre. C'est l'acidité des sucs digestifs d'un vautour, c'est un pH de 1, donc c'est pratiquement de l'acide pur. Hein. Donc ça détruit toutes les maladies. Et ensuite, en plus, ils nettoient donc la nature, ils évitent les eux aussi. Il y a plusieurs espèces de vautours. Il y a le vautour fauve qui est le plus courant. Le vautour moine, le vautour fauve mange les parties molles. Les vautours moines mangent les parties un peu plus dures. Le percnoptère d'Égypte mange les tendons, nettoie un peu parce que c'est le plus petit et il va vraiment grignoter un peu les parties un peu fibreuses qui sont autour des os. Et puis le gypaète barbu, donc le dernier, qu'on appelle le casseur d'os, qui va manger les os. Donc après leur passage des vautours, il n'y a plus rien. La nature est devenue propre, si on peut dire. Voilà, donc c'est vraiment des bienfaiteurs de la nature, si on peut dire comme ça, quoi. Voilà.
Gilbert David, je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler un peu de l'actualité de la LPO et puis de ses prochaines rencontres autour du tétralyre, à commencer puis les vautours fin novembre. Tous ces renseignements, vous les retrouverez sur le site internet, comme l'a indiqué Monsieur David. Et je vous souhaite en tout cas bonne soirée.
Merci beaucoup et bonne continuation à Radio Diwa.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
To town the other night, I heard he noise in a peaty fight. He watched him, he was running around, says, old Dan Tucker's coming to town. So get out of the way, old Dan Tucker, get out of the way, old Dan Tucker, get out of the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. I did eat a little today, old Dan and I, we've done fall out, and what do you think it was all about? He borrowed my old second hen and never fetched her back again. So get out of the way, old Dan Tucker, get out of the way, old Dan Tucker, get out of the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Old Dan, he was a fine old man, he washed his face in a frying pan, he combed his hair with a wagon wheel and died of a toothache in the heel. So get out of the way, old Dan Tucker, get out of the way, old Dan Tucker. Get out of the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. I'd eat a little day. I'd eat a little day. I'd eat a little day.